Voilà, on reprend le Tzemar Tzedek, Derech Mitzvotecha, Shoresh Mitzvot Atfila, la page 266, une dizaine de lignes après le début de la page. On est le 3 février, on est le 9 Shvat, et on est arrivé. Veshoresh, Shemakor Veshoresh Haolam Haba, la source et la racine du Haolam Haba, du monde à venir. Meprinat Eden Haelyon s'appelle dans la Torah le Eden Haelyon, le Eden suprême. On a une allusion au Eden dans la Torah chez Birtav, dans la Torah écrite, au tout début de la Torah, dans la première paracha, le fameux Nahar, le fameux fleuve Ayotse Meheden qui sortait du Eden, la Ashkot et Agan et qui allait arroser le Gan. Le Gan, le jardin. Et Adam Arishon, avant de fauter, avant d'être chassé de là-bas, Adam Arishon se trouvait dans le Gan. Et le Gan était arrosé donc par un fleuve qui venait du Éden. Alors bon, ce sont de belles images dans la Torah, mais on sait que d'après la Kabbalah, le Éden fait allusion au Olam Haba, le Gan fait allusion d'une certaine manière à notre monde, bien que le Gan dans lequel était Adam Arishon était un aspect du monde, de notre monde plus élevé que celui que nous connaissons aujourd'hui. D'une certaine manière, il y a eu un affaissement du monde avec la faute de Adam Arishon, mais globalement, le Gan fait partie encore des structures de notre monde, et il y a un Nahar, donc un fleuve qui relie le Eden à notre Gan. Alors c'est quoi le Eden? C'est le Olam Haba, c'est le monde à venir. Alors, c'est très intéressant cette manière donc de voir, parce que ça voudrait dire que le monde à venir d'une certaine manière existe déjà, et non seulement il existe déjà, mais c'est lui qui d'une certaine manière abreuve notre monde. C'est-à-dire que toute le fleuve ici fait donc allusion au chibour, au lien entre ce monde et notre monde, les énergies qui se déversent de ce monde à notre monde, les lumières qui se déversent de ce monde à notre monde, et donc notre monde est alimenté par ce monde qu'on appelle le monde à venir. Alors, puisque notre monde est alimenté par le monde à venir, alors pourquoi il est à venir? Puisqu'il est déjà, d'une certaine manière, il est déjà actif aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'il explique que ce monde s'appelle à venir, parce qu'il n'est pour l'instant que sous la forme d'une racine. Et comme toutes les racines sont voilées. Si on ne savait pas qu'un arbre repose sur des racines énormes, souvent, et qui sont cachées sous la terre, alors on pourrait croire qu'il n'a pas de racines. Mais on sait très bien que si on creuse, on fouille, on s'aperçoit que l'arbre lui-même ne tient que sur des racines. Alors les racines sont complètement cachées, mais sans les racines, l'arbre va mourir. De la même manière, une maison, celui qui n'a jamais vu comment on construit une maison peut penser qu'elle est posée à même le sol, mais on sait qu'il y a des fondations très profondes qui elles aussi sont cachées. Et si tu enlèves les fondations, si tu enlèves la racine, ce qui se voit disparaît. Et donc exactement de la même manière, notre monde est comme un arbre ou comme une maison qui repose sur des fondations ou sur une racine. Les fondations et la racine sont cachées, c'est ce qu'on appelle le monde à venir. Alors aujourd'hui on peut se tromper et penser que notre monde est l'essentiel, mais en vérité, lorsque le monde à venir va se dévoiler, alors, c'est-à-dire que les racines profondes cachées de l'existence vont se dévoiler, l'intériorité de l'existence va se dévoiler, c'est ça ce qu'on appelle le Olam Haba. À notre niveau, ça veut dire aussi qu'on va se rendre compte que l'essentiel n'est pas le corps, mais l'âme. Que l'essentiel n'est pas la force physique visible, mais la force spirituelle et morale. Et ainsi de suite, que tout ce qui est caché aujourd'hui va devenir l'aspect essentiel, l'aspect principal de l'existence. C'est pour ça que ce monde est appelé à venir, c'est-à-dire son dévoilement est à venir. Il existe déjà, mais il est complètement caché de nos yeux.
Après Mashiach, quelle est l'utilité du Olam Haba? On est immortel, non?
Mais justement, c'est ça le Olam Haba, c'est qu'on vit dans ce monde.
Après Mashiach?
Bien, s'il y a des shlavim, il y a des étapes, mais disons qu'on va de plus en plus vers le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le monde dont on parle, c'est le monde pnimi, c'est le monde intérieur qui est en vérité la source d'énergie de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est aujourd'hui. Et donc plus on dévoile ce monde, plus ça s'appelle aller vers ce monde, plus on dévoile ce monde et plus on rentre d'une certaine manière dans la vie éternelle, puisque ce monde est un générateur d'énergie, un générateur de vie inimaginable. Alors aujourd'hui, on ne reçoit que des rayons de cette vie, et c'est pour ça qu'on est mortel, exactement de la même manière qu'un soleil qui nous envoie des rayons, Les rayons sont mortels puisqu'en hiver ils sont stoppés, arrêtés par les nuages et donc on a froid en dessous des nuages, mais le soleil lui ne change pas. Le soleil est toujours aussi chaud, toujours aussi fort, toujours aussi lumineux au-dessus du nuage. Exactement de la même manière, aujourd'hui dans notre monde on ne reçoit qu'un rayon du Olam Haba, c'est ce que la Torah appelle le Nahar, le fameux fleuve, c'est l'image d'un rayon. On ne reçoit que des rayons du Olam Haba, donc c'est pour ça que la vie que nous avons dans ce monde est limitée, comme les rayons dont la puissance est limitée, mais le dévoilement du monde à venir, ça signifie qu'on passe au-dessus des nuages, où tout simplement les nuages disparaissent, on reçoit constamment les rayons de ce monde à venir, ce monde qui n'est plus à venir, ce monde qui sera, qui est, et à ce moment-là, donc, on rentre dans la vie éternelle.
Et le Hamazé disparaît.
Disons que le Olam Hazé disparaît sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ça veut dire que sous sa forme séparée par des nuages qui s'interposent entre la source et lui, cette forme-là disparaît. Ce n'est, en vérité, Chouv, c'est comme si on représentait encore une fois le Olam Haba et le Olam Hazé comme un arbre avec des racines. L'arbre restera toujours et les racines resteront toujours. Simplement qu'on peut imaginer un arbre qui ne reçoit pas bien et totalement de ses racines, et donc il s'assèche ou il meurt ou il ne donne pas de bons fruits, et un arbre qui reçoit parfaitement 100% de ses racines et qui est toujours majestueux, en bonne santé, qui donne des fruits extraordinaires. Mais c'est toujours l'arbre et toujours les racines. De la même manière, notre monde ne disparaîtra pas. C'est simplement la connexion avec sa source qui va changer. Pour l'instant, la connexion est extrêmement mauvaise, d'où la mort, d'où les maladies, d'où les guerres, d'où toutes les catastrophes naturelles et non naturelles qui s'abattent sur Terre, parce que la connexion est mauvaise. La connexion est mauvaise à cause de nos fautes, bien sûr. Et le Olam Haba, c'est tout simplement, tout reste en place, mais la connexion est totale. Et donc tout va changer sur Terre, c'est pour ça que c'est la vie éternelle, c'est pour ça qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, etc. etc. Bon, c'est une dimension qu'on ne peut même pas imaginer, ça nous fait rêver aujourd'hui. Mais c'est une dimension qui, bon, d'une certaine manière, dans un autre, on pourrait dire, exemple, lui tout à fait profane, mais qui malgré tout est une mesure de ce que je dis, à l'époque où les épidémies et le choléra et la peste emportaient les gens comme des mouches par centaines de milliers et par millions, à l'époque où l'espérance de vie était 30 ans et quand tu arrivais à 40 ans, tu étais déjà un vieillard, on n'aurait pas pu imaginer qu'aujourd'hui un homme à 70 ans ferait encore véritablement jeune relativement et que l'espérance de vie serait 80 années. On n'a pas pu espérer une chose pareille. C'était inimaginable au Moyen-Âge. Et bien c'est exactement, on voit que le monde évolue et que ce qui était inespéré il y a 2000 ans devient une réalité quotidienne aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est vers ça que l'on tend, avec des dévoilements.
Donc on améliore la connexion.
Aujourd'hui, on a amélioré la connexion par des voies plus naturelles. Donc c'est pour ça que l'exemple n'est pas juste, parce que ce n'est pas par le biais d'une meilleure connexion avec le Olam Haba. Simplement un exemple, comme pour dire qu'aujourd'hui l'espérance de vie qui paraissait impossible il y a encore 2000 ans, il y a 1000 ans, est aujourd'hui une réalité. Mais c'est vrai que c'est par des voies naturelles, donc ça je dis que l'exemple n'est pas excellent. Mais par le biais du dévoilement du Olam Haba, où là on pourrait dire que ce ne sera pas par le biais d'une meilleure hygiène de vie uniquement ou par de meilleurs médicaments, mais par le dévoilement d'énergies de vie extrêmement puissantes qui vont se déverser dans notre monde, par ce biais-là, à ce moment-là, on vivra effectivement, pas cette fois-ci 80 ou 100 ans ou 200 ans, on pourra vivre éternellement. Maintenant, encore une fois, vivre éternellement ne signifie pas qu'on va vivre 1000 ans, 2000, 3000, 4000, car dès que tu mentionnes du temps, tu n'es déjà plus dans l'éternité. Vivre éternellement, c'est-à-dire que la notion de temps va disparaître. Donc ce n'est pas qu'on va vivre 1 million ou 1 milliard ou 1000 milliards d'années, ce qui est une stupidité. On n'aura plus de sensation de temps. D'accord, le temps ne va pas être perçu en tous les cas. Il y aura une sensation de durée. Justement, la question, elle est connue. C'est pour ça que je dis qu'il y aurait une notion de durée, mais pas une notion de temps. Je ne sais pas si on peut donner un exemple qui lui non plus n'est pas extraordinaire, parce que c'est des notions qui nous dépassent complètement. Donc on n'a pas d'exemple dans notre réalité d'aujourd'hui. Mais disons que de la même manière que quand quelqu'un il est investi dans quelque chose qui le passionne, mamache qui le passionne, il peut passer 3 heures en ayant l'impression qu'il s'est passé un quart d'heure. Et donc il a oui une notion de durée, mais pas une notion de temps qui passe et avec toute sa pesanteur. On dit aussi que plus on s'approche de la délivrance et plus on ressent raccourci au niveau du temps. Je sais pas, les gens disent, moi je ressens une quantité d'autres sens, qu'on sort à peine du Shabbat que c'est nouveau Shabbat. En particulier en Eretz Israël, en Israël, on ressent ça très très fort par rapport à Chutz La'aretz. Il y a une accélération du temps inimaginable. On a l'impression qu'on vit d'un Shabbat à un Shabbat. Et tout ça provient du fait qu'on s'approche de plus en plus du dévoilement du Olam Haba, qui va dévoiler des énergies qui sont au-dessus du temps et de l'espace. Et c'est pour ça que, donnons un autre exemple, au-dessus de l'espace, Israël est un très 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 petit pays. Pour nous qui avons vécu en France, je veux dire, tout Israël rentre dans Paris et la banlieue. Et pourtant, on a une impression d'espace absolument incroyable. Incroyable, des fois quand on se promène dans le pays, on dit mais on pourrait mettre encore des millions de Juifs dans ce pays, tellement tout est désert encore, même dans la partie que eux appellent la ligne verte. Et c'est vrai, il y a une notion d'être au-dessus de l'espace, au-dessus du temps en Israël, qui est particulier à Eretz Israël, parce que justement c'est une terre qui est branchée plus que tout autre aux lumières du Olam Haba, et donc elle reçoit, on pourrait dire, du sur-temps et du sur-espace. C'est pour ça que cette terre s'appelle Eretz Tzvi, une terre, on pourrait dire, élastique. Élastique au niveau du temps, élastique au niveau de l'espace. Et tout celui qui y vit, d'une certaine manière, ressent que c'est complètement fou de penser que d'ici à Haïfa, c'est grand comme d'ici à une banlieue, c'est la distance d'ici à une banlieue de Paris, d'accord? Quand tu vas de Paris à Saint-Denis, tu as l'impression de faire du surplace, et nous, on va jusqu'au bout du pays. Et on a l'impression vraiment qu'on était au bout du pays, qu'on a fait de la distance. Et c'est fou, sur la carte, c'est fou, on a fait 60 kilomètres. Mais il y a véritablement une notion qu'on ne peut pas expliquer, qui provient du fait que cette terre est branchée plus que tout autre aux lumières du Olam Haba, et c'est pour ça qu'on sort de l'espace-temps, d'une certaine manière. Maintenant, c'est ce qui va se dévoiler, au niveau de l'humanité tout entière, et encore plus en Israël, au moment de la délivrance. Donc oui, il y a une durée, comme oui, il y a une distance entre ici et Haïfa. Mais la perception du temps est complètement différente et la perception de l'espace est complètement différente des notions qu'on a aujourd'hui. Alors, qui vivra verra, quand on y sera, on verra de quoi on parle. Seulement, nous, on sait que les choses vont se dévoiler. Comment elles vont se dévoiler, on ne sait pas exactement. Comment ? C'est le millénaire de la délivrance, un millénaire messianique.
C'est le septième, c'est le Shabbat.
Ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, ce qu'on appelle les temps messianiques. Et après, seulement, on rentre dans le Olam Haba, qui est encore une autre dimension, etc. Et encore une fois, toutes ces notions-là, la réponse n'est pas importante, parce que c'est comme, se poser la question, qu'est-ce qu'il y a sur Mars ? On sait que Mars existe, on sait qu'on peut y aller, on sait que quand on y sera, on verra ce qui s'y trouve. On sait que le Olam Haba existe, mais on n'a pas de référence. On sait de même que le 7e millénaire existe et qu'on va de plus en plus vers le 7e millénaire. Mais qui vivra verra, ce qui va se dévoiler, ce que sera la vie à ce moment-là, ce que sera le temps, l'espace, qu'est-ce qu'on fera. Tout ça, qui vivra verra. N'oublions pas que même au niveau d'un être, nous, on passe par des phases tellement, tellement, tellement différentes, au point que quand on est dans une phase, on ne pourrait pas imaginer l'autre si on ne le voyait pas de nos propres yeux. Quand on était encore une goutte, on pourrait imaginer qu'on deviendrait un fœtus. Quand on était aux premières étapes de l'état fœtus, on pouvait imaginer qu'on serait un enfant qui naît. Un enfant qui naît peut imaginer le Einstein ou le Baal Shem Tov. Quand Einstein est né ou quand le Baal Shem Tov est né, enfant né, on pouvait imaginer ce qu'il deviendrait. Non, c'est-à-dire que l'homme passe par des mutations inimaginables et quand tu es dans une étape donnée, vous imaginez la distance qu'il y a entre la goutte et le Baal Shem Tov. Donc on ne doit pas être étonné de ces notions-là. Même dans notre propre vécu, on voit que la vie passe par des mutations inimaginables. Mais on sait que c'est par cette voie qu'on passe. De la même manière, par rapport à notre vie dans le Olam Haba, on est peut-être aujourd'hui comme une goutte par rapport au nourrisson, ou comme le nourrisson par rapport à l'âge adulte. On va dire comme ça, par rapport au Olam Haba, on est aujourd'hui comme une goutte par rapport à un humain. Par rapport à Yemot HaMashiach, qui est encore avant le Olam Haba, on est comme un nourrisson par rapport à un adulte. Ça se ressemble déjà beaucoup plus, car il y a au moins la forme du corps. Et même dans le Olam Haba dont nous on parle, n'est lui-même que ce qu'on connaît, mais qui voile encore des inconnus énormes. C'est-à-dire qu'en vérité, on passe toujours par le biais de goutte, fœtus, naissance, se répète à l'infini, d'où on le sait. Au sujet de la création de l'homme, Rachid fait remarquer qu'il y a une anomalie grammaticale dans le texte volontaire. Il est dit que Dieu va yitzer et à Adam, il a formé l'homme. Et le mot va yitzer est écrit avec deux yud, ce qui est une grave faute à l'ulpan. Si quelqu'un écrit va yitzer avec deux yud, il reçoit un zéro. Donc comment se fait-il que le bon Dieu fait de graves fautes grammaticales? On le sait très bien, une faute grammaticale dans la Torah, c'est pour te mettre en évidence un enseignement. Pourquoi deux yud dans le Vayetzer? C'est pour te faire comprendre, dit Rashi sur place, que l'homme va être créé deux fois. Il a été créé une fois dans le Olam Hazé, il sera créé une deuxième fois dans le Olam Haba. Mais les commentaires disent sur ce Rashi, c'est pas pour rien que l'allusion est sous la forme de deux yud. Le yud, c'est la forme d'une goutte. C'est comme pour te dire, de la même manière que dans ce monde, tu es venu d'une goutte, sache que tout ce que tu es dans ce monde n'est qu'une goutte par rapport à ce que tu seras dans le Olam Haba. Donc vous imaginez la mutation qui va se produire au sein de chacun d'entre nous, une mutation qui est du type goutte humain aujourd'hui. Donc on ne peut même pas imaginer ce qui va se produire. Nous savons qu'il va se produire quelque chose. Et nous le savons ne serait-ce que parce que nous avons vu dans notre propre existence qu'il s'est produit quelque chose de goutte à humain. Et ce phénomène se répète à l'infini. Même ce que nous appelons le Olam Haba n'est encore que la goutte d'un autre monde et ainsi de suite. Puisque Dieu étant infini, ses possibilités sont infinies. Ses possibilités créatrices sont donc infinies. Et le phénomène de la création, goutte, fœtus, naissance, se répète à l'infini. Oui.
Le monde il a été créé quand même avec, comme le Olam Haba. Puisque Adam Arishon, avant de faire la faute,
Il était dans le Gan, que j'ai expliqué, c'est une partie du monde, oui, de notre monde, j'ai répondu.
Oui, mais vous avez dit que c'était le Gan qui était arrosé par l'Éden, c'est le Gan Éden, et en fin de compte, c'est le Olam Haba.
Non, c'est parce que j'ai dit exactement le contraire. J'ai dit que le Gan fait allusion à notre monde, et que notre monde est arrosé par le Olam Haba. Seulement que Adam Arishon, avant la faute, était dans la partie, on pourrait dire, la plus noble de ce que nous appelons notre monde. C'était encore notre monde. Le Gan n'est pas le Olam Haba. Le Gan, c'est notre monde. C'est une partie de notre monde qui s'est voilée depuis la faute. Là où se trouvait Adam Arishon. Mais notre monde, dans son ensemble, est, on pourrait dire, arrosé par les énergies du Olam Haba. Simplement que Adam Arishon, on peut donner un exemple simple. Nous qui vivons à Jérusalem, nous nous appelons être, nous sommes au Gan Eden par rapport à celui qui vit à Paris ou je ne sais où. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la partie la plus noble du monde, la plus spirituelle, la plus élevée du monde. Mais nous sommes quand même dans ce monde. C'est-à-dire que nous ressentons les énergies qui se déversent du Olam Haba dans, sur terre plutôt, nous les ressentons aussi ici plus fortes que partout ailleurs. Mais en vérité, la terre tout entière est arrosée par les énergies du Gan, par les énergies du Éden, pardon. Simplement qu'il y a des endroits sur terre où on ressent ces énergies plus fortes que partout ailleurs. Et cet endroit-là est appelé Gan. Le Gan est la partie du monde terrestre où on ressent plus fort que partout ailleurs les énergies qui proviennent du Olam Haba. Et de la même manière qu'avec la faute, Adam Arishon a été chassé du Gan, et donc a perdu cette proximité avec les énergies qui proviennent du Olam Haba, de la même manière dont dans l'histoire, lorsque nous avons fauté, nous avons été chassés de notre terre, nous avons quitté le Gan. C'est exactement le même phénomène qui se répète. Et de la même manière que la réparation de la faute signifie le retour au Gan, la délivrance signifie le retour en Eretz Israël. Et donc, mais encore une fois, le Gan est la partie la plus élevée de ce monde, mais c'est encore ce monde. On pourrait donner un exemple simple, comme le cerveau par rapport au corps. Le cerveau capte plus que toute autre partie du corps des énergies extraordinaires, l'intelligence, la réflexion, etc. Mais ça reste une partie du corps. Disons que Eretz Israël par rapport au monde est comme le cerveau par rapport au corps. On pourrait dire aussi comme le cœur par rapport au corps. Mais si déjà on veut être précis, on dira qu'effectivement Eretz Israël représente deux membres essentiels qui sont le cerveau, Tzvat Meron, et le cœur, Yerushalayim. D'accord ? C'est les deux membres essentiels de la vie, puisque la vie est déterminée en fonction du cerveau et du cœur, c'est Tzvat et Yerushalayim. On peut continuer. Et donc, chez Makor et Shoresh Olam Haba, donc c'est ce qu'il dit, le Makor et le Shoresh du Olam Haba, ou Bechinat Eden Ha'Elyon. Donc, le Olam Haba est la racine et la source de toute existence, ce qu'on appelle le Eden Ha'Elyon. le Éden d'en haut, le Éden suprême. Chez I, Chochma Eliona, dans la Kabbalah, le Éden, Olam Haba, Shoresh, s'appelle aussi Chochma Eliona, la Chochma d'en haut, la Chochma suprême, qui, comme on le sait, est le premier des 10 attributs divins. La Chochma Eliona, chez Nikret Éden, qui elle aussi est appelée Éden. Donc c'est pour ça que j'ai comparé le Olam Haba au cerveau. Puisque au niveau des attributs divins, le Olam Haba s'appelle Chochma. C'est le cerveau. Et bien exactement comme un homme. Un homme peut vivre globalement de deux manières. Celui qui régit toutes ses actions par la Chochma, par la sagesse, et celui qui vit déconnecté un petit peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, de la Chochma jusqu'à vivre comme un animal. D'accord ? En vérité, même celui qui vit comme un animal est quand même branché à son cerveau. D'accord ? Puisque quand il va faire une action animale, il la pense cette action-là. Simplement que quoi ? Qu'il a tellement voilé la noblesse de son cerveau qu'il ne s'en sert que pour des choses animales. Mais il reçoit toujours du cerveau. Donc l'exemple est excellent. Même quelqu'un qui vit comme un animal sur terre reçoit quand même des énergies du Olam Haba. Mais ces énergies-là sont tellement voilées qu'à son niveau, elles ne s'expriment que dans l'animalité, que dans la bestialité, que dans la futilité. C'est ce qu'on appelle la klipa. C'est quoi l'écorce ? L'écorce voile le fruit. De la même manière, la faute voile la noblesse de l'énergie divine. Et automatiquement, l'énergie, ou plutôt sa noblesse étant voilée, c'est ce qui va me permettre de pouvoir l'utiliser à faire des bêtises. D'accord ? C'est pour ça que le Tanya donne un exemple extraordinaire, fort mais extraordinaire. Il dit, quand un homme faute, c'est comme s'il rentrait dans le palais d'un roi, d'accord ? Prenait la tête du roi et la trempait dans un pot de chambre plein d'excréments. Et il dit exactement de la même manière, lorsqu'un homme faute, l'énergie de vie qui se trouve en lui à ce moment-là est traînée dans des excréments par la faute. Mais c'est la même énergie de vie qui se trouve au même moment dans le Baal Shem Tov ou dans Moshe Rabbeinu. Et parce que Moshe Rabbeinu n'est pas plus vivant à ce moment-là que le Racha qui fait une faute. Les deux sont vivants de la même manière. Mais un enseigne la Torah et l'autre vole, viole ou tue. C'est la même énergie, mais l'une est dans les excréments et l'autre est dans la sainteté. C'est ça le sod de la klipa, donc qui voile la source d'énergie au point que je n'ai plus conscience de sa noblesse et je fais une faute avec. Donc on continue. Al-Shem he'arat oneg ha'elyon. Et on sait que la chochma eliona, c'est la différence fondamentale entre la chochma et la bina. La chochma, c'est pour ça que j'ai appelé ça la sagesse et non l'intelligence. La chorma est un rayonnement de Oneg Elyon, de bonheur suprême. La différence entre l'homme intelligent, il est au niveau de la Bina, et l'homme sage, qui est au niveau de la chorma. Un homme peut être très intelligent, mais être rempli de casse, de colère, de rigueur, de dinim, etc. Au contraire, Shlomo Ameler dit même que l'intelligence va souvent de pair avec les rigueurs. Pourquoi ? Parce qu'un homme, entre parenthèses, intelligent est un homme rigoureux, donc un homme qui est, on pourrait dire, sous le signe de la rigueur, et automatiquement, ça a une influence aussi sur son moral, d'être extrêmement exigeant, pointilleux, précis, et donc généralement, ce genre de force éloigne l'homme d'un sentiment de bonheur, de plénitude, de joie intérieure. Encore une fois, ce n'est pas du 100% ce que j'ai dit, mais généralement. Par contre, la sagesse est tout associée à une notion de joie profonde, de bonheur, de félicité. Quand on parle d'un homme sage, on voit tout de suite, on peut dire un visage souriant, un visage heureux. C'est la sagesse véritable, d'accord ? Et généralement, on voit que souvent, chez tous les peuples, quand on représente un homme sage, on le représente avec un sourire, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est dans la vérité populaire, la vérité universelle, pardon, pas populaire, que la sagesse s'associe toujours au bonheur. D'accord ?
C'est une forme de paix.
Voilà, de paix intérieure, etc. De Shlemout. La sagesse et la chokma qui va de pair avec le bonheur. C'est donc pas l'intelligence. C'est au-dessus de l'intelligence. C'est beaucoup plus fort que l'intelligence. La rigueur, c'est la bina, c'est l'intelligence. Voilà. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, on explique que les dinim, les rigueurs, s'enracinent dans la bina. La bina est une sphira du côté gauche, alors que la chokma est une sphira du côté droit. Évidemment, on ne peut pas être chacham si on n'est pas d'abord mévin. On ne peut pas être un sage si on n'est pas extrêmement intelligent. Seulement le sage a su dépasser l'intelligence pour atteindre la sagesse, la chokhma, qui est en vérité la plénitude, le bonheur intérieur, le sentiment et la sensation, pourrait dire, de remplir son rôle, d'avoir trouvé, compris et atteint le but de l'existence, qui donne cette félicité qui est typique à l'homme sage. Non, Derech Eretz, c'est au niveau des midot, le Derech Eretz. C'est déjà le travail, c'est comme une échelle. On commence par le Derech Eretz, qui est le travail sur soi, le comportement, puis après on atteint l'intelligence véritable, et enfin, on arrive au sommet de l'échelle qui est la Chochma.
Mais pourquoi le Nachash s'attaque à la Bina, à ce moment-là, si c'était la rigueur?
Parce que justement, parce que la rigueur, elle n'est pas encore la Shlemout, elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore, on pourrait dire, le... On sait très bien, je vais répondre d'une autre manière, on sait très bien que les hommes les plus dangereux sont les hommes intelligents. Un homme qui n'est pas intelligent, je veux dire, même s'il faute, qu'est-ce qu'il peut déjà faire? Dans la mesure où il n'a pas l'intelligence d'élever la faute à un niveau dangereux. Et c'est l'homme intelligent, véritablement intelligent, qui peut mettre son intelligence au service du mal, qui se fait mal et qui fait mal. Donc le Nachash ne va pas s'attaquer à un homme bête, il va s'attaquer à un homme intelligent. C'est pour ça qu'on voit aussi dans la Torah que précisément, ce sont les très grands qui peuvent chuter, qui peuvent fauter.
D'accord.
Non, il s'est attaqué à Chava qui représente la Bina et pas à Adam qui représente la Chochma.
Et la Chochma, c'est bête.
Non, mais j'ai expliqué. La Bina n'a que la Bina. La Chochma a en plus la Chochma. Il a la Bina, mais en plus la Chochma. Donc le Nachash ne peut pas s'attaquer à un homme Chacham, parce qu'il est trop haut par rapport au Nachash. Tu comprends? Tu ne peux pas t'attaquer à un homme... C'est comme si tu es quelqu'un qui est en chemin, qui n'a pas encore atteint le but. Tu peux encore le tromper et lui dire de tourner à gauche pour qu'il tombe dans le ravin. Mais quelqu'un qui est déjà arrivé là où il doit arriver, il peut dire de tourner ni à gauche ni à droite, il est arrivé. Le Chacham, celui qui est arrivé, il est déjà dans la félicité, il est déjà dans le bonheur, il a déjà accompli sa vie.
Moshe,
comment qu'il était Chacham? Il n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté, Moshe Rabbeinu. Il a mal fait le bien. On l'a déjà expliqué des milliards de fois. Moshe Rabbeinu n'a pas fauté. Il n'y a pas de notion de faute chez ces hommes-là tel que nous on le conçoit. Il y a une notion de mal faire le bien qui est généralement la faute que font les justes. Ce sont des erreurs. Voilà. Nahon, parce que c'est Moshe Rabbeinu, bien sûr. C'est absolument évident. Oui, mais ce n'est pas une faute. Le langage est absolument important. L'erreur d'un grand peut être plus grave de conséquences que l'énorme faute d'un petit. Mais ça reste une erreur et c'est une faute. Ce n'est pas le même registre. Comprenez? Je veux dire, un ouvrier dans l'usine, ses erreurs ne portent pas la même conséquence que le patron qui, s'il fait une erreur de virgule, peut faire faillite aussi. Donc il faut savoir dans quel registre on est. Mais ce n'est pas une faute, ça ne vient pas du Yetzer Hara. Ce sont des erreurs d'appréciation qui viennent d'un mauvais calcul, mais ça n'a rien à voir avec le Yetzer Hara. On dit déjà sur David Ameller qu'il n'avait pas de Yetzer Hara. Lui qui a vécu 2000 ans après Moshe Rabbeinu, on va parler sur Moshe Rabbeinu qui avait le Yetzer Hara. Il n'y a pas de notion de Yetzer Hara chez ces gens-là. C'est toute la première partie du Tanya qui explique que les tzadikim gmurim n'ont pas de Yetzer Hara. Bien sûr que le tzadik gamour peut aussi faire des erreurs. Mais ce n'est pas des erreurs qui viennent du Yetzer Hara. C'est autre chose. Vous voyez? C'est autre chose.
Ils sont au niveau de ce que l'on définit pour le clan comme... le changement de registre qu'il y aura après la Géoula, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des erreurs, mais le niveau des transgressions changera de registre.
Disons qu'on peut expliquer la chose suivante. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est une force qui soit te voile la vérité, d'accord, soit te trompe sur la vérité, ça veut dire qu'elle te fait voir la vérité, le Yetzer te fait voir la vérité là où elle n'est pas. Donc soit tu ne vois pas la vérité ou tu ne vois pas le bien, soit le Yetzer, dans une forme beaucoup plus pernicieuse, te fait voir le bien là où il y a le mal. Ça, c'est la forme la plus grave du Yetzer, c'est toutes les idéologies perverses, toutes les fausses religions, tous les fanatismes, etc. Donc ça, c'est les deux formes les plus graves du Yetzer. Un homme comme Moshe Rabbeinu sait exactement où est la vérité et personne ne peut lui faire voir la vérité là où elle n'est pas. C'est ça, c'est l'ABC d'un juste. S'il n'a pas ça, il n'est même pas. Il est quoi alors? Il est encore un homme standard. Un juste est quelqu'un qui sait exactement où est la vérité et il sait exactement où elle n'est pas. Le problème est, c'est qu'entre savoir où est la vérité et t'y rendre, le chemin est des fois rempli d'embûches. C'est là où les tzadikim peuvent trébucher. Dans leur chemin vers la vérité, ils peuvent tomber. Comme dit le verset, « Sheva yipol tzadik vekam ». Sept fois le juste tombe jusqu'à ce qu'il se relève. Donc, Moshe Rabbeinu sait exactement où est la vérité, mais en tant qu'homme qui n'est pas un ange et qui a forcément encore des épreuves et des difficultés, donc pour se rendre vers la vérité qui est la réalisation du bien, il a encore des embûches. La plus grande de toutes les embûches qu'il a eues, c'est qu'il n'est pas arrivé en Eretz Israël. Il n'avait aucun doute sur le but à atteindre, sortir d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Il sait exactement par où il faut passer, Kriyat Yamsouf, Matan Torah, etc., Mishkan, il connaît toutes les étapes. Mais dans le vécu quotidien, il y a des embûches d'étape en étape. Et lui est resté coincé dans l'avant-dernière étape. Il est arrivé jusqu'à la frontière, il n'a pas pu traverser.
Est-ce que c'est pas lui qui serait allé par le chemin du Pichet?
Comment?
Est-ce qu'il ne voulait pas aller par le chemin en haut et que c'est Hachem qui...
Non, dès le départ, Hachem lui a révélé qu'il ne fallait pas.
C'est la même chose qu'Adam Arishon, en fait.
Disons que c'est la faute de Adam Arishon, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Expliqué à Rava. Il lui a dit, au lieu de plonger, il lui a dit ne pas toucher. Le Nachash s'est servi de cette faute, de cette erreur, justement, pour arriver justement à chuter après.
Peut-être, effectivement. On peut dire comme ça. Il s'est trompé sur le chemin, effectivement. On peut dire comme ça. Donc on continue.
Non, il connaît le chemin, mais...
Non, mais c'est ça.
Il sait. Mais il ne pratique pas le cheminement.
C'est ça, mais c'est ça, exactement.
Le chemin, il le connaît.
Non, le chemin, il le connaît, mais il c'est ça. Erreur. Il a fait une erreur sur le... C'est comme quelqu'un qui sait qui marche en chemin, mais il trébuche. Il marche sur ses lacets, etc. C'est pas qu'il sait pas où il doit aller, c'est pas qu'il connaît pas le chemin, mais il a trébuché. Écoute, c'est ça, c'est à ce niveau-là que les tzadikim tombent. Mais c'est pas pareil que nous. Nous, on se trompe de chemin, on tombe dans des ravins, on croit qu'on va à droite alors qu'on est en train d'aller à gauche, on croit qu'on est réveillé alors qu'on dort, on croit qu'on dort alors qu'on est réveillé. C'est, nous, c'est complètement, on pourrait dire, un chibouche, comment on dit en français, un chibouche, un balagan, une falsification totale des valeurs.
Mais
comprenez?
L'erreur amène à la faute, en fait. Parce qu'après, il a mangé, il lui a fait manger quand même.
Oui. C'est pas une faute. Au niveau d'Adam Hachin, c'est pas vraiment une faute. Alors, on continue. Veshoresh. Donc on y va. Alors, chez Ia Chochma Eliona Shenikret Eden Hashem Eharat Oneg Elyon. Et donc, la Chochma, comme on a expliqué, est au niveau de du Oneg Elyon. On a expliqué que la sagesse est toujours liée au bonheur intérieur. Mitaami Melionim, et ça fait allusion au niveau des lettres. Otaami Melionim. Vous rappelez, donc on est toujours sur finalement dans la suite des cours sur les lettres. La partie la plus haute d'une lettre est le ta'am, le nigoun, la partie chantée de la lettre. Maintenant, dans les nigounim eux-mêmes, dans les ta'amim, il y a trois types de ta'am. Il y a le ta'am elyon, qui est au-dessus de la lettre, le ta'am emtsaï, qui est au milieu de la lettre, et le ta'am atarton. C'est tout simplement ce qu'on appelle des notes. En do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord? On monte, on descend, etc. Il y a le ton, il y a... Qui c'est qui m'avait dit récemment? C'est vous qui m'aviez dit ça, hein? On retrouve ces notions-là dans le solfège, etc. Donc, il y a... Bon, moi, j'y connais rien. Mais en tout cas, il y a le ton élevé, le ton du milieu, le ton d'en bas, globalement. Comment?
Chaque semaine, c'est quoi? C'est lequel?
Le quoi?
Le ta'am, oui, chaque semaine, Shabbat, c'est lequel? Le ta'am emtsaï?
Non, il y a des différents ta'am. Non, il y a des ta'am.
Je sais que par exemple, pour les Aseret HaDiborot, on dit le ta'am million.
Oui, je ne m'y connais pas du tout. Bon, Hachem, il y a des tas de choses que je ne sais pas. Je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là. Mais je sais globalement qu'il y a ta'am million, ta'am emtsaï, ta'am tarton. plus dans les détails, il faudrait étudier les choses. En tous les cas, la Chochma fait allusion au Tama Elion, ça veut dire à l'aspect le plus élevé du Nigoun. On sait que dans les Nigounim, il y a aussi différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle le Nigoun de la Neshama, où quand on l'entend tout de suite, on s'envole. C'est les Nigounim qu'on chantait devant les prophètes pour que l'esprit prophétique se pose sur eux. Ça, c'est le Nigoun qui est au niveau du cerveau, où pratiquement on médite le Nigoun, on l'intériorise au niveau de la pensée. C'est le Tama Elion. Il y a le Nigoun qui est au niveau de l'oreille, c'est-à-dire c'est un Nigoun qui est extrêmement agréable, mais tu t'envoles pas non plus, c'est-à-dire tu as un véritable plaisir, comme un concert, etc., mais c'est pas le truc, ça y est, tu commences à prophétiser. Et il y a le Nigoun qui est au niveau du corps. Ça veut dire le rythme, ça te donne une sensation au niveau, on le voit tout de suite, on commence à bouger, etc. D'accord ? C'est pas un plaisir d'oreille, parce qu'on peut pas dire que c'est particulièrement beau, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il n'y a rien d'extraordinairement beau, mais il prend le corps. Donc ça, c'est les trois niveaux qu'il y a au niveau du Nigoun. Ah oui, c'est la même chose qu'en musique. Il y a le Nigoun du cerveau, Ta'ama Elion, où là, le corps ne bouge plus. Tu as déjà dépassé le plaisir de l'oreille. Tu te concentres au niveau de la marshava, tu t'envoles. Tu as le Nigoun de l'oreille, où tu es tout plaisir. C'est une jouissance au niveau de l'oreille. Et tu as le Nigoun le plus bas, le Nigoun qui n'est d'afka pas beau, généralement, parce que le but, c'est pas que ça fasse plaisir à l'oreille. Le but, c'est que ça entraîne le corps. C'est les trois types de nigunim qui existent. Nigun ta'am elyon, ta'am emtsa'i et ta'am atarton.
Oui. Le rabbi, il avait dit à Ben Yehoshua, qui était un grand mélomane, qui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il écoute trop la musique pour ne pas rester dans ce niveau intermédiaire.
Oui, parce que c'est quelqu'un, il a une âme extrêmement spirituelle et qui capte le nigun. Ben c'est connu, il y a l'état d'histoire chassidique là, ceux qui vont dans ce sens-là. Je ne sais plus quel rabbi c'était, qu'à chaque fois que il allait prier trois fois par jour, et ben c'est une blague, ça me fait rire évidemment. Il réécrivait un testament parce qu'il n'était pas sûr de revenir. Pourquoi? Parce que quand il priait, sa kavana le faisait monter, d'accord. Il entendait le nigoun des anges. On sait qu'au moment où Israël prie en bas, les anges prient en haut au même moment. Il entendait le nigoun des anges, qui est, on peut même pas imaginer, si on dit que sur le nigoun des Lévi'im au Beth Amigdash, chacun qui l'entendait se mettait à prophétiser. Imaginez-vous le nigoun des anges. Il n'était pas sûr de revenir. Il pensait peut-être rester là-haut, tellement c'était fort. Et donc, c'est pour ça que les prophètes demandaient à ce qu'on chante devant eux certains types de nigunim qu'on appelle nigune haneshama, ta'ama elyon, et à ce moment-là, ils se connectaient avec le flux divin. Et donc, c'est ça tout le sort du nigun chassidi autour du rabbi. Le rabbi, avant de faire ce qu'on appelle son mahamar, de dévoiler un enseignement de chassidut qu'il capte lui-même d'en haut, les chassidim se mettent à chanter. Il y a des nigunim très particuliers qui ont été choisis par les rebbeim avec beaucoup de minutie. Généralement, ce sont des nigunim qui ont été retrouvés, qui étaient chantés au temple par les lévi'im. Et à ce moment-là, on pourrait dire le roi se pose sur le rabbi et il commence à ce moment-là à faire ce qu'on appelle le mahamar. En tous les cas, la chochma est au niveau du ta'ama elyon. Ça veut dire la chochma, c'est un nigoun de la neshama. On est loin au-dessus de l'intelligence. On est à un niveau de perception qui n'a plus rien à voir avec l'intelligence, qui passe par l'intelligence. C'est-à-dire que c'est quoi le chacham? C'est qu'il est en train d'étudier une page de la Torah, d'accord? Certainement l'aspect profond de la Torah, le Zohar ou je ne sais quoi. Et puis tout d'un coup, en pleine étude, il commence d'abord par la Bina. Tout d'un coup, à ce moment-là, son cerveau s'envole. Comme dans un nigoun. Et il commence à capter des choses qui sont au-dessus du texte. C'est pour ça que ça s'appelle Kabbalah. Parce qu'à ce moment-là, il reçoit. Et c'est ce qu'on explique, que tous les grands maîtres d'Israël ont reçu ce qu'on appelle par Ruach HaKodesh. C'est quoi par Ruach HaKodesh? C'est que au moment de l'étude, à ce moment-là, l'étude est au niveau de la Bina. À ce moment-là, ils ont eu une inspiration qui les fait monter au niveau de la Chochma. Et à ce niveau de la Chochma, c'est comme un nigoun, comme un chant extraordinaire où des choses inimaginables leur sont révélées. Et à ce moment-là, ils captent. D'accord? On raconte sur des tzadikim qu'au moment où ils étaient en état de Chochma, À ce moment-là, ils écrivaient à toute vitesse tout ce qu'ils captaient de peur, parce qu'ils savent qu'après, une fois que le flux va passer, ils ont oublié. Donc ils écrivent. On a retrouvé sur des livres de tzadikim des annotations complètement illisibles, partout dans les marges. C'est absolument illisible. Et qu'est-ce qui se passait? C'était au moment où ils étaient en train d'étudier. À ce moment-là, le flux s'ouvrait, ils montaient au niveau de la chokhma. Et à ce moment-là, il y avait un déversement inimaginable dans leur âme, et ils écrivaient là où ils pouvaient, ils n'avaient pas le temps d'aller chercher une feuille, et là où ils pouvaient, ils écrivaient pour après garder une trace de tous ces dévoilements. Et tous les maîtres d'Israël ont bien sûr capté leur Torah à ce niveau-là, au niveau de la Chochma.
Au niveau musical, est-ce qu'il y a pas une différence dans le monde ashkenaz et le monde séfarade? La localisation a fait que la musique était différente, non?
Nahon, mais parce que ça aussi, ça correspond à des... Ben, en vérité, et la raison profonde, comme le dit le Zohar, c'est parce que les uns doivent récupérer le Nitzotz qui est chez Ishmael, les autres doivent récupérer le Nitzotz qui est chez Esav. Le Zohar, c'est un vieux Zohar que je vous avais déjà fait. Enfin, le Zohar est toujours en avance sur notre temps, mais vieux par rapport au cours. Un cours que j'ai fait il y a très longtemps, où le Zohar explique que dans le Ham Israël, il y a ce qu'on appelle les Bnei Yitzhak et les Bnei Avraham. C'est-à-dire, en fait, on est Bnei Yaakov, mais qui a les deux tendances. Il y a une partie d'Israël dont le Ophi est Yitzhak, et une partie d'Israël dont le Ophi est Avraham. Et le Zohar dit, c'est ça le Pélé, que les Bnei Yitzhak sont partis dans le Galout d'Ishmaël, et les Bnei Avraham sont partis dans le galout de Esav. C'est exactement le contraire. Non, là, il y a des superpositions de folie, mais ça, je n'ai pas envie de refaire tout le cours. Mais en tous les cas, c'est des problèmes de récupération du Nitzotzot. Ça veut dire qu'il y a une partie d'Israël qui doit récupérer le Nigoun à travers le champ oriental, et une partie d'Israël qui doit récupérer le Nigoun, le Nitzotz, l'étincelle divine, à travers le champ occidental d'influence chrétienne. Pourquoi? Parce que, comme explique le Zohar, qu'avec la destruction du temple, tous les chants des Lévi'im sont tombés, comme ce qu'on appelle la brisure des vases, le fameux Olam HaTohu qui a explosé. Les chants des Lévi'im, bon, c'est une image, une parabole, mais les chants des Lévi'im ont explosé, et des débris des chants sont tombés au milieu des nations. Mais globalement, les nations sont Ishmael et Esav, en tout cas les nations qui nous concernent directement, celles avec lesquelles on a affaire tout au long de l'histoire, Ishmael et Esav. Donc il y a une partie des chants des Lévi'im qui est tombée chez Ishmael, et une partie des chants qui est tombée chez Esav. Et donc tous les Nigunim, tous les chants, et l'une des raisons pour lesquelles on a été envoyé chez Ishmael et Esav, c'est pour récupérer les étincelles. Donc c'est pour ça qu'il y a des Neshamot qui vont s'enflammer sur un chant oriental, juif oriental bien sûr, et des Neshamot qui vont s'enflammer sur un chant, un Nigoun plus Chassidi Ashkenaz. Et le contraire, ils sont insensibles. Ils sont insensibles à la sensibilité de l'autre, parce que ce n'est pas leur Shoresh Neshama. C'est pas comme ça que fonctionne leur âme. Donc ils n'ont pas ce Nitzos à récupérer.
La musique orientale et la musique occidentale procèdent de la même manière que ce que nous avons expliqué. Ça veut dire qu'il y a le niveau du haut, du centre et du bas. Et plus on va vers le haut, et on s'aperçoit que les musiques se rapprochent l'une de l'autre. Moi, je suis un fan de musique classique égyptienne. Je sais qu'Abdel Wahab, qui est un grand compositeur égyptien, a repris des musiques classiques, qu'il a transformées, qu'il a orientalisées. Donc on retrouve des racines, on retrouve des sonorités qui sont très proches l'une de l'autre, au niveau de la musique classique. C'est au niveau des autres musiques qui sont du bas, alors il y a des grandes...
C'est comme toujours, dans le Shoresh, tout se rejoint. Absolument. Alors, on va faire encore une minute ou deux et on va arrêter le cours. Velachen. Et donc, on comprend, non. Alors, Al-Shem Arat Oneg Elyon Mitamim Elyonim. Alors, donc, on a vu que la Chorma s'appelle Ta'amim Elyonim, donc le Nigoun de la Neshama, selon ma traduction. Achen Itavuta Urak Minayud Aleph Ot Bilvad. Voilà. Maintenant, l'aïtavu de la chorma provient du yud. On sait que la chorma est par rapport à la première lettre du nom divin, yud, ke, vav, ke. Et donc, la chorma se situe au niveau de la première lettre du nom divin, ot, bilvad, une simple lettre, kanal, comme ce que j'ai expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire une simple lettre? Parce que Pourquoi la Chochma est représentée par le Yud? Parce que le Yud, c'est la plus petite des lettres, en vérité, c'est un point. Comme pour dire que cette perception, en vérité, demande une concentration énorme, énorme, énorme. Puisque comme quelqu'un qui se concentre sur un point, de la même manière, la Marshava est appelée, dans le langage de la Kabbalah, un point. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs en français, se concentrer. C'est mamash, se concentrer. Et donc, où on dit un point, c'est tout. Et donc c'est toujours la même notion, c'est le tzimtzum de la marshava, la concentration de la marshava, qui finalement quand la marshava, quand la pensée est concentrée, la concentration c'est comme un yud.
Ça veut dire et donc pas du yud.
Le yud c'est le niveau le plus haut de la marshava, ce qu'on appelle la kavana.
On a dit hier que le yud c'était la makhout.
Le yud c'est le cerveau, c'est de là que tout provient. C'est de là que tout se déverse. Mais c'est un niveau très très haut à percevoir. La kavana dans la tefila, la kavana dans un nigoun, c'est des niveaux, c'est ce qu'on appelle la méditation. Quand un homme arrive à s'extraire de tout ce qui est autour de lui, de tout ce qui est à l'intérieur de lui qui n'est pas le point fondamental, et de remonter jusqu'au point fondamental, se concentrer sur ce point, et à ce niveau-là, quand il se concentre sur ce point, il arrive dans son microcosme intérieur, c'est là qu'il rentre dans l'infini. Selon le principe bien connu que le monde a été créé comme un ribourg, comme une union entre l'infini et le fini. Et donc lorsqu'un homme se disperse dans l'infini de ce monde extérieur, à ce moment-là, il s'éloigne au maximum de l'infini intérieur. Et lorsque l'homme se rassemble à l'intérieur d'un point intérieur qui est la concentration au niveau de la marshava, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans l'infini intérieur. C'est ça le sod de Tzion. C'est ça le sod, ma mage de Tzion. Comme on sait que le mot Tzion, Tzion veut dire un point. C'est ça le sod de Tzion. Et là, on ouvre la porte à des milliards d'heures de cours sur toute la notion de Tzion, du Beth Amigdash, etc. Et c'est à ce niveau-là que ça se situe. Ça veut dire que c'est que le Tzion qu'on a perdu, c'est cette capacité de concentration intérieure, de nekouda intérieur. Le monde de l'intériorité, on est éclaté, éparpillé, déchiré dans l'extériorité du monde, et donc on n'a plus de possibilité de faire ce rikouz intérieur, et la nekouda de la concentration intérieure s'appelle nekoudat tzion, qui est le da'at, qui se trouve au milieu des deux cerveaux, et qui d'après la Kabbalah se trouve ici, c'est le point ici, le point qui est bolet ici, c'est le fameux Keren David, la corne de David, qu'on demande les Atzmiar et Keren David, c'est la Nekouda Tzion, le point que nous avons tous ici, c'est la Nekouda Tzion. Non, c'est pas là qu'on met les Tfilines, c'est jusqu'à cet endroit que doivent arriver les Tfilines. Les Tfilines sont au-dessus de ça. La base inférieure des Tfilines arrive sur le point qui est la Nekouda Tzion qui est ici. Et cette Nekouda Tzion, qui est ce qu'on appelle Eharat HaMetzar, qui est le metzar, qui est le front, qui est le sod de la volonté. Pourquoi ici c'est tellement dur? D'accord? Un coup de tête, etc. C'est le sod du ratson, de la volonté qui se trouve ici, metzar. C'est le sod du Mashiach, c'est le sod de Tzion. Voilà. Et donc Tzion a été détruit, ça veut dire qu'on n'a plus de possibilité de retrouver pour l'instant. Enfin, on aura plus. Bien sûr qu'on tend vers de plus en plus. Mais pour l'instant, on est encore un petit peu éloigné de cette nekuda donc de concentration de Tzion. Sur lequel on va construire le Beth Amigdash. Alors c'est quoi le Beth Amigdash? C'est les Tfilines. Les Tfilines, une fois qu'on a retrouvé cette Nekouda, à ce moment-là, sur cette Nekouda, on met les Tfilines de la tête, qui est le sod du Beth Amigdash.
Et pourtant, au Beth Amigdash, les corbanotes, c'était le plus matériel possible.
Ah oui. Non, mais ça on l'a déjà expliqué, parce que justement on élève, on fait toute l'élévation de la matérialité, c'est ça le sod. C'est que toute la matérialité retrouve son sens. Au Beth Amigdash. Peut-être que demain, Bezrat Hashem, rappelez-moi au début du cours, demain qu'on reprenne à partir de là cette notion de Tzion et du Beth Amigdash, puisqu'on a ouvert, sans le vouloir vraiment, une porte énorme par rapport à ces notions-là. On va s'arrêter pour aujourd'hui.